les trois voix qu'on peut entendre sont pas très difficiles à comprendre. Il y a la nôtre, il y a celle de Dieu, et puis il y a l'ennemi qui essaye d'insuffler des choses, parce que même s'il est extérieur à nous, il peut souvent être sur notre épaule et puis essayer d'instiller quelque chose. Alors on va commencer par lui. C'est un peu comme s'il y avait un écran et trois projecteurs qui projettent dessus. Si les trois projecteurs projettent ensemble, ça va être pas du tout, on ne va pas pouvoir du tout discerner ça. Donc, comment les différencier? C'est toute la question. Ce n'est pas si difficile que ça. C'est comme beaucoup de choses, ça demande un petit peu d'entraînement. Au début, ça paraît un peu compliqué, mais ça devient vite clair. Donc, quand je parle de la voix de l'ennemi, c'est la sienne et celle de ses subordonnés qui vont avec. La parole est très claire à son propos, Jean 8, verset 44, la fin. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et père du mensonge. Père du mensonge, c'est-à-dire le mensonge se crée en lui. Ses buts, là, pareil, très clair, Jean 10, il est venu pour voler, tuer, détruire et nous tenter. Voilà, si on est client, on n'a qu'à ajouter du crédit à ses paroles. Il faut savoir que l'ennemi n'est en rien créateur. Par contre, il a une grande capacité d'imitation de ce que Dieu... Il singe beaucoup Dieu, mais il n'est en rien créateur. Il peut même singer Dieu. Dans la parole, il est fait mention d'une femme qui disait « Mais écoutez, cet homme, c'est un homme de Dieu, etc. » Et le disciple l'a rabroué, l'a fait taire. Parce que la motivation, même si le contenu des paroles était juste, la motivation était complètement tordue et la source était mauvaise, quoi. Donc l'ennemi peut même dire des demi-vérités ou des choses qui parlent de la parole, mais dans un contexte complètement faux. Il essaye, alors il nous ment, et souvent nous croyons ces mensonges. Nous on le voit très fréquemment dans les entretiens. Bien souvent, qu'est-ce qu'on a comme conception erronée? On en reparlera, mais si on a une conception d'un Dieu qui est un père fouettard, moi, je ne vois pas ça dans la Bible. Je vois un Dieu d'amour, un Dieu de justice, particulièrement dans le Nouveau Testament. Dans l'Ancien, il a pu vouloir montrer sa puissance, et ça peut être un peu différemment, mais dans cette nouvelle alliance, c'est vraiment un Dieu qui essaye de nous rejoindre. Il essaye aussi de tordre nos perceptions, à commencer par celles que nous avons nous-mêmes. Je ne sais pas pour vous, mais moi, je n'ai pas toujours je suis pas toujours très charitable à mon égard. Je me trouve plein de défauts. Alors après, on essaye de les masquer, etc. Mais la parole ne me dit pas ça. La parole me dit « Je suis une créature merveilleuse ». Et je me rappelle d'un jour, je pensais à ce verset, puis j'ai une amie qui me téléphone. Puis bon, elle a connu passablement de problèmes, de dépression et autres. Et puis voyant que c'est elle qui appelait, je décroche, je me dis « Salut créature merveilleuse !» quoi. Et elle avait justement pris le téléphone pour me faire part de tout ce qu'elle n'est pas, de tout ce qui... Et voilà, moi je l'accueille « Salut créature merveilleuse !» Elle finalement, ça allait déjà beaucoup mieux comme ça. Mais qui est-ce qui essaye de nous enfoncer, de nous distiller ces choses, hein? Dans la Bible, il a un nom commun, c'est le Satan, l'accusateur. Donc il n'y a vraiment rien à tirer de lui, même des paroles qui peuvent être flatteuses, n'en tenons pas compte. Et je suis très travaillé ces temps par une question, mais est-ce que je peux même seulement imaginer ma vie exempte, qui soit complètement exempte des perceptions erronées que l'ennemi essaye de distiller? Est-ce qu'on arrive à s'imaginer? Moi j'ai de la peine, hein. Donc c'est un chantier. Alors bon, sa façon de faire, c'est qu'il questionne ce que Dieu a dit. Genèse 3, ça commence de bonne heure. Est-ce que Dieu a vraiment dit ça? Il y avait les trois quarts de juste dans tout ce qu'il a dit. N'empêche que le quart restant, ça a bien pourri l'atmosphère. Il déforme la parole ou la sort de son contexte. Il cherche à diviser. Nous, on sait que, par exemple, quelques jours avant un séminaire, etc., on doit faire un petit peu attention. Par exemple, à notre communication, prier l'un pour l'autre, et des choses comme ça. Vous avez connu ça aussi, sûrement. quelque chose dont on est peut-être moins conscient, c'est qu'il cherche à nous faire prendre des décisions rapides. Quand il ne peut pas nous arrêter, il nous pousse. Et puis, il nous amène dans le stress. C'est effarant de voir le nombre de gens qui sont en état d'épuisement, de burn-out, de choses comme ça. Mais plus ça va, plus le monde du travail, plus ça devient courant. Qui est aux manettes derrière ça? Voilà. Donc l'ennemi, il essaye aussi d'attaquer notre identité en crise par des pensées négatives, d'indignité ou de doute. Et il cherche à... Et puis je vais m'arrêter avec lui. Il cherche aussi à mettre en nous peur, anxiété, confusion, contrainte, pensée d'orgueil. Toutes ces pensées qui ne sont pas existantes dans la relation père-fils et esprit. Tout ce qui n'existe pas dans la relation père, fils et esprit, à savoir amour, respect, partage, bienveillance, etc., tout ce qu'on n'imagine pas comme étant existant entre père, fils et esprit, on n'a pas de raison de l'accepter. Donc tout ce qui est de cette peur et de cette anxiété, on est en droit de la refuser, parce que ça ne vient pas de Dieu. Donc on a des solutions, on n'est pas des pauvres victimes, hein, et Catherine l'a déjà dit. Soumettez-vous à Dieu, première des choses. Résistez au diable, il fuira loin de vous. C'est Jacques 4, verset 7. Nous sommes en droit, avec l'autorité que le Seigneur nous donne, de lier la parole de l'ennemi, de la refuser quand il vient nous tourmenter. Ça, c'est un de nos droits. Et puis, j'aime bien parler de petits indices pour la reconnaître. Parce que moi, je vois certaines choses. Déjà, Dieu parle en jeu. Alors, si vous entendez tout à coup, mais est-ce que Dieu dit que... Dieu, il ne fait pas des triangulations comme ça. Il parle de lui en jeu. Moi, je l'ai entendu une fois clairement me reprendre dans une assemblée. Eh ben, c'était pour moi, hein. Ça, c'était sûr. Et c'était très sobre. Hein. Exécution derrière. Hein, parce que... voilà, j'ai mis ma vie en ordre derrière. C'était très clair. Ça n'avait rien de... ni d'accusateur, c'était pas du tout... L'ennemi, il aime bien aussi, hein, vous savez, ses pensées qui nous tarabustent comme ça pendant tout un temps. Dieu n'est pas comme ça. Dieu ne n'utilise pas ces méthodes qu'il nous voit comme ça. Donc si j'entends Dieu dit que... Ah oui, tiens, est-ce que c'est Dieu, il dit pas Dieu dit que, il dit je dit que. L'ennemi insinue beaucoup, c'est pas le style de Dieu. Il y a aussi le ton, l'intonation, voilà, les phrases répétitives, tout ça. Pour moi, Dieu est clair s'il a quelque chose à dire. Voilà, puis laissons-le là. Et intéressons-nous maintenant à notre propre voix. Ce qui est embêtant avec ma propre voix, c'est qu'elle a la tentation de vouloir satisfaire mes propres désirs. C'est un peu embêtant des fois. Elle est basée sur ce que j'ai appris. Et puis... il est bon de donner une place un peu secondaire à ce qui est raisonnement, même le bon sens. Moi, Dieu me parle beaucoup par le bon sens, mais j'ai de la peine à savoir si ça vient de lui ou si ça vient de moi. Je pense qu'il travaille ce bon sens aussi, mais je trouve que ça demande vérification, quoi. Donc je mets au second plan ce qui est raisonnement, bon sens, quand je cherche à écouter Dieu. Et je veux vraiment soumettre mes pensées. La parole nous dit de ne pas nous appuyer sur notre propre sagesse et de ne pas faire notre volonté, mais celle de Dieu. Comme Catherine l'a dit, important de déposer nos pensées, nos désirs, notre volonté. Moi, je me méfie quand ce que je reçois coïncide un peu trop avec ce que j'aimerais. Là, par contre, je suis très content quand j'ai une parole qui me surprend complètement, enfin, une pensée qui me surprend complètement. Il dit, tiens, ça, moi, j'y ai pas pensé. Donc, il y a peut-être des chances que là, ça vienne de Dieu. Tout bêtement. Hein. Voilà. Alors, si la voix de Satan est liée et que la mienne est soumise à la volonté de Dieu, on est déjà sur le bon chemin pour reconnaître celle de Dieu. Une première des choses, c'est qu'elle ne contredit jamais la Bible. Jamais. La Bible est parole de Dieu. Ça, je n'ai jamais remis ça en question. C'est une voix douce, une voix qui conduit, qui peut apporter une mise en lumière dans une situation donnée. C'est une voix qui encourage aussi. Comme je le disais tout à l'heure, elle peut être ferme quand c'est nécessaire. Il y a une autorité qui émane de la parole de Dieu. Il y a, quand on est en lui, aussi un écho. Quand j'entends une parole, est-ce qu'elle fait écho en moi? Elle peut me déranger, ça peut être un écho dérangeant, mais est-ce qu'elle fait écho vraiment au plus profond de moi? Et puis elle cause des réactions particulières, comme la conviction, la foi, l'enthousiasme. D'ailleurs, enthousiasme, c'est le mot de Dieu, c'est le théo dans le mot d'enthousiasme. Elle peut nous conduire à la paix, au respect, à la joie, une sainte crainte aussi. Qu'elle nous apporte vraiment de la connaissance, une compréhension, une humilité. Elle porte de bons fruits, comme la joie, comme la force de servir et d'obéir. Donc la voix de Dieu est claire, soumettons nos pensées, et elle est aussi très variée, la voix de Dieu. Elle peut s'exprimer audiblement, mais ça peut être en modelant un objet, par un dessin, une image, par la nature, etc. Ne le limitons pas, il est le créateur avec un énorme C. Et il peut vraiment créer des choses qui soient sur mesure pour nous. Nous l'entendons, sachons le reconnaître dans toute la diversité de ces modes d'expression, je dirais.
Voilà, on aura un petit temps de questions, si jamais, tout à l'heure, si vous en avez. Mais on va peut-être prendre encore un dernier volet maintenant avant. C'est de voir quelques-unes de ces façons dont Dieu nous parle, très concrètement. Et j'aimerais commencer par celle qui est notre fondement, c'est la parole. La Bible. Dieu parle vraiment par sa parole. Vous l'avez expérimenté, vous ne seriez pas là si ça n'avait pas été le cas, je pense. Et on sait que c'est ça. Or, ça peut venir de différentes façons. Je me rappelle d'une fois d'un flash que j'ai eu. On lit la Bible et puis tout à coup, il y a un flash, il y a comme un verset qui sort du lot, si je peux dire, puis on sait que c'est pour nous et que ça nous concerne. Je vous citais que j'avais été faire une école de disciples de jeunesse en mission. Et avant d'y aller, je me suis posé cette question, mais Seigneur, est-ce que c'est vraiment quelque chose que tu as pour moi? Et j'avais fait un service d'été en Angleterre l'année d'avant pour voir si déjà je pourrais me dépatouiller à faire cette école en anglais. Et j'avais repris une année scolaire, et pendant cette année scolaire, j'étais en train de prier, de dire, Seigneur, est-ce que l'année prochaine, je demande congé une année et que je pars faire cette école. C'était aussi un immense privilège de se dire, si le directeur accepte une année de congé, ça me permet de me former, il me garde mon poste pour l'année d'après. C'était quand même quelque chose de pas mal. Puis j'étais en train de prier pour ça, et puis un dimanche soir, je me revois comme maintenant, j'étais vraiment fatiguée, je voulais dormir, puis quelque chose m'a poussée à me dire, mais lis encore un ou deux versets avant de t'endormir. Je lis dans ma lecture du jour, j'étais dans l'évangile de Marc, et dans ma lecture qui suivait, puisque je lisais l'évangile en suivant, j'arrive sur l'histoire de cette femme qui brise le vase de parfum au pied de Jésus et qui lui essuie les pieds avec ses cheveux. Et il y avait une petite note dans ma Bible qui disait que c'était vraiment un sacrifice important qu'elle avait fait, cette femme, parce que ce vase de parfum correspondait à une année de salaire. Elle avait vraiment fait un sacrifice là pour Jésus, par amour pour Jésus. Et tout à coup, l'esprit c'était un flash dans ma tête. C'était une question, est-ce que tu es d'accord, comme cette femme, de m'offrir une année de salaire?